Fred Film Radio, Cinéma du Real, Paris, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Aujourd'hui, dans le cadre du 39e Festival Cinéma du Réel, je vais m'entretenir avec Hendrik Dussolier à propos de son film Dernier jour à Chibati, qui est en compétition française. Bonjour Hendrik.
Bonjour.
Alors, si je ne m'abuse, c'est votre 5e film, mais c'est pas la première fois que vous parlez d'un quartier en extinction, et c'est pas non plus la première fois que vous explorez la Chine. Cette fois, vous le faites caméra à l'épaule presque tout le temps, sauf quelques scènes aériennes, dans le quartier qui est presque un bidonville, on pourrait dire, de Chibati, du titre, dans la plus grande ville de Chine, Chongqing. Et vous êtes guidé dans ce quartier à mesure qu'il se démantèle, par intervalle de 6 mois, vous y retournez tous les 6 mois. Vous êtes guidé par un petit garçon, et puis aussi par une petite grand-mère très positive qui collectionne des objets colorés. Alors comment vous êtes tombé dans ce quartier ?
Bah en fait, Chongqing, c'est une ville qui me fascine depuis longtemps. Ça fait il y a 10 ans en fait, j'étais à 300 km de Chongqing. J'ai fait beaucoup de voyages en Chine en fait depuis 2005 et j'ai fait 2 films là-bas déjà, donc un court-métrage et puis un moyen-métrage. Et je voulais voir le barrage des Trois Gorges qui est en aval. Qui est à 300 km de Chongqing. Je voulais filmer comme d'habitude un peu seul et tout ça, j'avais pas d'autorisation, il y avait l'armée et j'étais là et ça faisait un mois que je me promenais en Chine et je voyais des photos de Chongqing et ça m'intriguait, je connaissais pas du tout cette ville et je me disais j'y vais pas et puis j'ai dû rentrer pour des raisons familiales parce que ça faisait aussi longtemps que j'étais seul en Chine et j'avais envie de rentrer et j'ai énormément regretté puisque 10 ans plus tard j'étais invité à un festival donc en 2014 près de Shanghai et là j'ai sauté sur l'occasion depuis 10 ans que je pensais à cette ville que j'avais pas vue et j'y suis allé. Évidemment c'est terrible puisque en 10 ans cette ville c'était Chibati, toute la ville quasiment. Il n'y avait pas un immeuble plus haut que ce qu'on m'a dit, 30 mètres de haut, c'était le plus haut point de la ville et en 10 ans c'est devenu Manhattan. Donc j'avais loupé ça. J'y suis allé, j'ai quitté le festival pour aller là-bas et là j'ai commencé à tourner et je cherchais des paysans qui étaient encore entre les immeubles. On m'avait dit qu'il en restait parce que la ville a grossi tellement vite que il y a des paysans qui étaient encore au milieu des buildings, vous voyez, dans la banlieue qui s'étaient fait encercler et quand je suis arrivé en fait, c'était déjà terminé. J'en ai trouvé quelques-uns mais il n'y avait pas de quoi faire un film parce que le phénomène venait de se terminer l'année précédente. Et je suis tombé sur Chibati et là j'ai tout de suite su qu'il fallait que je préserve ce lieu absolument quoi.
Mais d'ailleurs la question de savoir exactement ce que vous filmez dans le film se pose au début. D'ailleurs il y a comme une sorte de petite chose déceptive, enfin on vous dit c'est pas ça la Chine et puis au fur et à mesure du film on vous dit mais pourquoi vous filmez, qu'est-ce que vous filmez, mais voilà il y a cette espèce de redéfinition de votre projet au fur et à mesure.
Pour moi non, c'est clair depuis le début hein. Ce quartier comme vous disiez au début c'est un sujet qui m'obsède, j'ai l'impression, enfin en tout cas en faisant ce film je me suis rendu compte qu'une fois de plus je refaisais le même film quoi et que je parlais de la même chose et ce qui me touche en effet oui c'est un monde qui disparaît, c'est ce quartier Chibati, c'est le dernier quartier de cette ville hein, qui est devenu la plus grande agglomération urbaine de Chine en 10 ans en fait, c'est extrêmement rapide et c'est des dizaines et des dizaines d'années de vie de quartier qui disparaissent en un an. Pour moi c'était le projet était clair dès le début, par contre le film s'est fait au fur et à mesure au fil des rencontres. J'ai beaucoup traîné en fait avec ma caméra du matin au soir, enfin et la nuit je filmais tout le temps. Et puis quand j'ai rencontré ces personnages que j'ai choisis parmi d'autres, mais parce que voilà vraiment eux ils étaient forts et eux je sais pas, ils m'ont aussi choisi, on est devenu il y a une relation très forte qui s'est créée. Et quand je suis rentré à Paris, que j'ai traduit parce que je découvre à la traduction en fait ce qu'on me dit, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. J'y suis retourné la deuxième fois à nouveau et la troisième fois et voilà le film s'est fait comme ça en fait.
En fait, c'est peut-être pour eux que le projet prend un autre sens au fil du film. Mais en fait, j'aurais bien voulu que vous nous décriviez avec vos mots et vos sensations aussi l'évolution de votre rôle et de votre position par rapport à cette communauté. Parce qu'au début, on vous dit vous êtes un espion, vous venez filmer les choses qu'on voudrait pas montrer. Et puis au fur et à mesure, vous devenez un ami. Enfin, voilà, comment vous décririez la manière dont vous avez été accepté par cette communauté?
Alors en fait, au début du film, il y a cette scène où c'est une scène d'introduction où tout est dit, c'est ça qui est assez... intéressant parce que ils me disent que je suis un étranger, que je comprends pas ce qu'ils disent, que le quartier va être détruit et que c'est plus ça la Chine. Ces gens-là, ils rigolent. Mmh. Ils me bousculent un peu, mais ils rigolent. Mmh. D'une manière générale, les gens dans le quartier ont toujours été très accueillants, vraiment très accueillants, très souriants. Il y a une ambiance super et il devient petit à petit un bidonville. Mais au début, c'est encore une vie tout à fait pittoresque, avec les portes sont ouvertes, les gens mangent dehors, tout le monde se connaît, vous voyez. Et bon, c'est ça, pour moi, la profondeur de la thématique du film, c'est qu'on passe de ça au tour. Et quand on ferme la porte, il n'y a plus personne. Et ce monsieur, et on est devant la télé, et ce monsieur qui au début me dit va manger plutôt, ici c'est radar, enfin c'est secret défense, ça c'est le radar, en parlant de la théière et tout ça. On est retourné le voir, je l'ai pas mis dans le film parce que ça rentrait plus dans l'histoire, un soir, et il nous a raconté, il pleurait à la fin, il nous a raconté exactement ça. Il nous a dit, vous voyez ici, il y en a certains qui sont contents d'aller dans des nouveaux immeubles parce qu'ils en ont marre de ce quartier où il n'y a pas de confort matériel. Et il dit, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que la vie qu'on a ici, elle est terminée et que une fois qu'on sera là-haut, que la porte sera fermée, on va se retrouver tout seul devant la télé, quoi. Et c'est ça, c'est le thème qui est fort pour moi. Tout simplement parce que c'est l'histoire de ma famille qui était des immigrés espagnols qui étaient très pauvres et qui ont vécu ça, en fait.
Alors, il y a effectivement un élément important du film, c'est que vous ne parlez pas la langue et ça vous donne une position qui est peut-être intéressante. Est-ce que vous pensez que d'autres choses seraient, que des choses sont sorties justement parce que vous aviez cet isolement, ou du moins que vous ne parliez pas la langue?
Ouais, tout à fait, ouais. C'est un dispositif un peu imposé, puisque après, quand je suis revenu, il a fallu trouver des traducteurs, c'était pas facile, ils avaient tous un boulot à côté, enfin bon, donc finalement c'est quelque chose que je fais depuis 10 ans, hein. Quand je vais en Chine, je suis toujours tout seul, sauf un voyage où j'étais avec un ami, où on est parti dans les mines du Shaanxi, etc. Donc lui conduisait et puis c'était quand même un peu chaud. Mais d'une manière générale, je filme seul et ça permet d'une part d'être en immersion, j'ai une toute petite caméra, un micro très discret. Ça permet surtout que le tournage existe, puisque en Chine, j'ai beaucoup d'amis journalistes qui, dès qu'ils arrivent à 2 à 3 avec un micro, la police arrête le tournage, ou en tout cas demande une autorisation. Moi, j'ai déjà eu des petits soucis, mais rien de grave, et j'ai surtout pu continuer mon film grâce à ce dispositif. Et au fait que, ne parlant pas la langue, je ne pose pas de questions. Et ça, par rapport à ce que vous disiez, je suis certain que il y a énormément de scènes qui n'auraient pas surgi si j'avais compris, si j'avais pu répondre, si j'avais relancé, posé des questions. C'est-à-dire que ça aurait tout changé, en fait. Totalement. Et la plupart du temps dans le film, je suis pas accompagné. Il y a quelques fois, c'était important que j'y aille pour comprendre, pour leur demander, parce qu'il fallait préciser des choses, pour aussi leur dire des choses. Mais voyez, toute la scène de la fin avec la dame, en fait, on a perdu la traductrice dans le carrefour, au milieu des voitures. Et heureusement, en fait, parce que tout ce qui se passe après n'aurait pas eu lieu si elle avait été là, ou si j'avais parlé chinois.
Et est-ce que vous retourneriez les voir? Est-ce que vous retournerez les voir, ces gens?
Ça, c'est mon grand, grand rêve, là. Parce que, évidemment, ils n'ont pas d'email, ils n'ont pas de téléphone. Le père, il a un téléphone portable, mais on a essayé d'appeler, ça ne marche plus. Oui. Le père du petit.
Déjà, l'ascenseur, pour eux, c'est quelque chose d'étonnant. Alors, j'imagine
Elle n'est jamais montée dans l'ascenseur. La vieille dame aussi, c'est pas mis dans le film, mais à un moment, on a pris un taxi parce qu'on était perdu. Il était 2h du matin. Et elle m'a dit, c'est la première fois que je monte dans une voiture, quand même.
Oui. Ouais. Eh ben, en tout cas, on invite les gens à aller voir Shibati, à aller voir Shibati qui n'est plus, dans ce film de Hendrik Dussolier. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Merci à vous.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.